Bonjour à tous les auditeurs de Radio Prévert qui nous rejoignent sur le 93.9 et le 88.6. Merci de suivre. vous pouvez aussi nous retrouver en podcast de jour comme de nuit sur le site de radioprévert.fr dans la rubrique La Cour des Grands. Sur notre plateau aujourd'hui, on a choisi d'inviter Cathy Trottier. Cathy Trottier qui est élagueur, grimpeuse dans les arbres. Et quoi d'autre encore ? Bonjour Cathy Trottier.
Bonjour. Et quoi d'autre encore ? Je fais de la gestion d'espace, je suis jardinier, je suis éducateur sportif dans les primaires. Et puis aussi, je fais grimper les petits et les grands dans les arbres.
Voilà, tout un programme. Avec nous sur ce plateau pour poser des questions, nous avons toujours notre cher Steve.
Bonjour.
Bonjour Steve. Yuna.
Bonjour.
Bonjour Yuna. Et Kenzo.
Bonjour tout le monde.
Bonjour Kenzo. Et puis, caché derrière la platine, nous avons, il nous fait un petit pouce pour nous dire que tout est OK, nous avons Juliane. Bonjour Juliane. Alors Cathy, peux-tu nous présenter ton travail un petit peu plus en détail ?
Eh bien, en fait, mon travail, il est multicasquette. J'ai du travail à l'intérieur et à l'extérieur. Donc, des fois, j'utilise un ordinateur. Ça, c'est le côté moins passionnant parce que je suis enfermée. Mais après, j'ai tout mon travail dehors où là, j'ai le temps d'observer la nature, de travailler avec elle et d'essayer de la faire perdurer comme un peu dans le développement durable. C'est-à-dire que vous puissiez toujours avoir cette nature qui vous suit et qui soit toujours avec vous. Et un truc qui me passionne et que j'adore, c'est en fait j'ai appris à grimper dans les arbres pour mon métier d'élagueur. Et dès que j'ai appris ce métier, la seule chose que j'ai eu envie de faire, c'est de vous emmener avec moi. Vous emmener là-haut, c'est-à-dire vous permettre d'avoir des cordes, des petites échelles et vous pouvoir devenir des petits écureuils qui grimpaient dans l'arbre. Grimper dans l'arbre, c'est aussi après marcher sur les branches, se déplacer, trouver son équilibre comme si vous étiez un funambule. Donc voilà, c'est moi ma passion, c'est vous faire monter là-haut et d'avoir des sourires, comme je peux apercevoir, rien qu'à l'écoute.
Et ça fait combien de temps que vous faites ce métier ?
Alors mon métier d'élagueur, ça va faire 30 ans que je le fais. J'ai commencé vers les 23 ans. Mais comme aujourd'hui, par exemple, c'est ce que j'ai à vos camarades, quand j'avais votre âge en 3e, ce que je savais, c'était que je voulais travailler dedans et dehors, mais j'en savais pas plus. C'est avec le temps, les rencontres, que j'ai découvert ce que je voulais faire et ce que je suis devenue.
Alors justement, un métier, ça ne se construit pas en un jour, c'est tout un parcours. Qu'est-ce que tu as fait avant de devenir élagueur et grimpeuse dans les arbres ?
J'ai fait plein de choses. J'ai commencé, j'étais sportive de haut niveau. Donc j'ai commencé au collège avec une classe professionnelle où je faisais du sport, je faisais de l'athlétisme. Mais j'avais à côté de ça, dans un club où je faisais du judo. Donc j'ai voulu aller en seconde, mais ce n'était pas la seconde que je voulais, donc au niveau cours, j'ai pas fait grand-chose. Sport, oui, ça s'est bien passé. J'ai continué, je suis retournée en BEP, pour dire que tous les chemins mènent à Rome. Je suis repartie en BEP, après je suis passée un bac pro, j'ai essayé d'un BTS. J'étais en contrat de qualif, ce qui était bien parce que quelque part, j'ai vu vraiment concrètement le métier. Bon, j'ai pas eu le diplôme, mais j'ai appris plein de choses, j'ai rempli ma besace. Et puis j'ai continué à faire plein d'autres métiers comme l'élagage, le jardin. Et puis l'élagage, en fait, voilà, ça a commencé par là. Et puis j'ai découvert qu'il y avait des associations et qu'il y avait des métiers où on pouvait faire dans le sport. Et moi, j'avais un rêve d'enfant aussi, je ne vous ai pas dit. C'est que quand j'avais votre âge, même un peu avant, je voulais être prof de sport en primaire. Et donc, dans l'éducation nationale ou dans le ministère jeunesse et sport, pour pouvoir encadrer des gens, il faut un diplôme d'État. Donc j'ai passé un diplôme, un BPJEPS, activité physique pour tous, qui m'a permis de travailler en primaire avec vous, les jeunes, vous montrer comment se développer, grandir, marcher, se servir de ses jambes et de son dos. Et en même temps, ça m'a permis de pouvoir vous emmener, vous, dans les arbres. Donc grâce à ce diplôme de sport, eh ben, je peux vous emmener individuellement, avec le centre de loisirs, avec les écoles, dans les arbres.
J'entends que c'est une somme d'expériences qui t'a amené en fait à faire grimper les élèves, les petits et grands dans les arbres. Il faut être sportif du coup pour pouvoir faire ces travail-là.
Un peu quand même. Disons que c'est vrai que par le biais du métier d'élagueur et puis même avant, en fait, j'avais un passé de sportif de haut niveau. Donc c'est vrai que j'ai pu encaisser plus facilement, je pense, toutes ces activités. Et c'est vrai que d'être sportif, d'avoir un minimum de conditions physiques, de penser... Mais ça sert aussi à tous les jours, hein, cette condition physique. C'est-à-dire qu'en fait, de bien déjeuner le matin, de savoir faire des étirements quand on fait des activités un peu sportives, un peu dures, tout ça, ça vous permet de pouvoir devenir des adultes qui vont résister dans le temps. aussi. Et donc oui, c'est toute cette expérience, ce côté sportif qui m'a permis de, aujourd'hui de vous faire grimper. Et je suis à 4 années de mes 60 ans et je me sens plutôt en pleine forme.
Alors nous avons sur notre plateau une sportive justement. Yona qui fait du judo, est-ce que ça te parle ?
Un petit peu, parce que parfois ma professeure de judo nous rappelle souvent de manger équilibré entre guillemets et de faire attention à sa ligne par rapport au sport ou juste de se sentir en pleine santé entre guillemets.
Et au niveau mental ?
Oui aussi.
Ouais, moi je connais bien le judo, en plus j'en ai pratiqué pendant pas mal d'années, j'ai un niveau deuxième dan, et c'est vrai qu'en fait ce qu'on oublie souvent c'est les étirements, manger c'est donc pour un sportif, surtout au judo on a une histoire de poids donc on essaie de faire attention, et puis on a eu une période où en fait on laissait manger et après les judokas devaient faire des régimes drastiques pour reperdre, et ça c'est très mauvais pour l'organisme, donc on fait plus attention à tout ça, et ça c'est super. Mais c'est des choses aussi qu'on doit prendre conscience, que tous les jours on doit faire attention à ce qu'on mange, pas trop sucré, mais juste ce qu'il faut, des figues, des légumes, comme là aujourd'hui on avait des carottes, pommes de terre et riz, et c'est génial quoi, il y a tout pour avoir la pêche après.
On est heureux et dans ce collège.
Je voulais revenir sur votre métier. Pourquoi vous aimez faire grimper les enfants dans les arbres, être jardinier ou des choses comme ça?
Comme je disais, moi, je cherchais un métier où je pouvais être aussi dehors. Et puis, en fait, j'étais en formation BTS aussi de gestion des espaces naturels, en fait, pour mieux connaître notre environnement. Parce que les arbres, ils sont dans ton jardin, ils sont dans un espace de la commune. Les arbres, c'est pareil, mais ils vivent dans un environnement. J'ai été aussi, au départ, dans une formation, c'était de bâtiment. Donc, en fait, j'ai le bâti, j'ai le jardin, j'ai les arbres. Et pour moi, ça ne suffisait pas. Donc, j'avais besoin de tout l'environnement. Parce que pour moi, on n'a pas à regarder juste le centre, mais on doit regarder tout ce qui se passe autour de nous. Quand on fait une étude d'impact, souvent on entend parler, on s'arrête à trop près des limites. On devrait aller voir plus loin parce que, en fait, par exemple, vous avez un arbre dans votre jardin. On va, votre voisin, il en a un aussi, qui le protège du vent du ouest. Il enlève son arbre. Mais votre arbre, lui, il a grandi avec l'autre, donc il n'est pas musclé. Donc il va avoir, quand il va recevoir le vent, il va prendre tellement fort qu'il va casser des branches. Donc en fait, ça veut dire que quand l'autre élague, un arbre qui est protégé, dans cet arbre-là protégé, il va falloir peut-être venir intervenir pour le soulager, pour qu'il puisse se muscler, ou pas se casser en tout cas, ou pas s'abîmer, ou moins s'abîmer. Donc c'est protéger notre environnement, qu'on puisse vivre avec. En fait, pour moi, souvent il y avait des politiques qui vivaient à l'époque, qui disaient vivre ensemble. Ok, vivre ensemble en tant qu'humain, mais pour moi c'est vivre ensemble avec les animaux, la faune et la flore. D'abord la flore même, puisque c'est grâce à elle on peut se nourrir, et ensuite la faune. C'est vivre ensemble, tous les êtres vivants sur cette planète. Pour moi, un arbre, c'est un individu comme toi. J'y fais des câlins. J'y parle même aussi.
Vous faites des câlins à un arbre et vous lui parlez ?
Oui ! Eh oui, même si il te répond pas comme toi tu me réponds, on se parle, là, on échange, mais je sais pas, sa force, son énergie, s'ils ont une énergie aussi à l'intérieur, ils ont l'électricité, comme nous, ils ont des neurones, et tu la ressens. Et je sais pas, ça te... Moi, souvent, quand je fais des animations, parce que on parlait de grimper dans les arbres, c'est souvent grand public, mais quand je fais des cours pour pouvoir être autonome dans les arbres, je suis obligée de mettre un chrono, parce que sinon, des fois, une séance de 2 heures, elle dure 4 heures, et on s'en rend pas du tout compte.
Alors justement, Cathy, racontez-nous comment vous nous emmenez dans les arbres, en fait. Qu'est-ce qui se passe quand on est au pied de l'arbre ? Qu'est-ce qui va se passer ensuite quand vous avez un groupe ? Alors, c'est des groupes de combien, déjà dans...
Alors, ça dépend un peu des arbres, de l'âge aussi des grimpeurs. Mais imaginons que vous êtes là, vous, les jeunes du collège. On va faire des petits groupes d'une douzaine, voire peut-être jusqu'à 16, à la rigueur. Et puis, ça dépend du placement des arbres, s'ils ne sont pas trop loin. Parce que je suis toute seule à pouvoir regarder ce que vous faites, si vous faites bien ou pas les choses. Parce qu'au départ, vous allez donc, on utilise les techniques des grimpeurs et lagueurs, c'est-à-dire qu'on met des cordes dans les arbres. Évidemment, au haut de l'arbre, il va y avoir une fausse fourche pour éviter les frottements, puisque la corde elle va coulisser. Et on ne veut pas abîmer la peau de l'arbre, parce que les cordes, c'est un peu comme une peau pour vous, hein, d'accord ? Donc on va mettre une fausse fourche, et puis il y a des techniques où vous allez être à deux. Un qui assure comme en escalade, et un qui grimpe. Alors des fois, il n'y a pas de branche basse, parce qu'il peut y avoir des branches au ras du sol sur les arbres ou pas ?
Oui.
Hop. Ah ouais, très bien. Hein, les branches, elles ne sont pas qu'à 3 mètres de haut. Hein. On peut les avoir à 50 cm, 1 mètre, 2 mètres, etc. Et donc des fois, on peut servir de ces branches pour grimper et quelqu'un nous assure. Ou alors aussi, on peut s'assurer tout seul. on est en autonomie. C'est-à-dire que vous avez une corde qui monte tout en haut de l'arbre, et voilà, vous êtes autonome, vous avez juste à utiliser des mousquetons.
Et est-ce qu'on peut grimper sur tous les arbres ?
Oui, on peut. Ah, alors, oui, on peut grimper sur tous les arbres. Après, il y en a qui sont un peu plus piquants que d'autres. Je parlerai des espoirs du singe, par exemple. Il a son nom parce que justement, ces aiguilles, ces espèces d'aiguilles sont vers le haut. Donc, quand on descend, eh ben, ça pique. Donc, eux, on ne grimpe pas. Après, on a le robinier qui pourrait être un peu ce qu'on appelle le faux acacia, qui pourrait être un peu piquant, mais c'est surtout sur les jeunes pousses. Il a des aiguillons. Il y a des différences entre des branches épineuses et des aiguillons. Ce n'est pas la même chose. Mais à peu près, autrement, tous les arbres. Ce que je préfère, moi, dans les arbres, c'est les chênes, les hêtres, les frênes. Les cèdres, je les aime bien, mais c'est des gros pépères et le bois, il a l'air très dur quand on se cogne le genou dessus.
Donc, on fait de l'escalade.
Alors, escalader, pas vraiment, parce qu'en fait, escalader, ça voudrait dire qu'on monte sur le houppier. Et en fait, donc dans l'arbre, on est obligé de passer par l'intérieur. Donc, on est obligé de grimper. Si on regarde sur le dictionnaire, que veut dire le mot escalader et le mot grimper. Donc, c'est pour ça qu'en fait, on est des grimpeurs et lagueurs. On grimpe dans les arbres parce qu'on est obligé de se servir du tronc, de ses charpentières pour accéder à la cime. Et ensuite, on va pouvoir se déplacer dans l'arbre. On va pouvoir aller installer, je sais pas, par exemple, un hamac pour aller passer la nuit. Entre deux belles charpentières, avec une corde qui va pouvoir vous permettre de monter dans l'arbre. Parce qu'on fait des nuits hamac aussi. Vous pouvez passer la nuit là-haut. Vous amenez votre duvet, et hop, je vous explique un petit peu avant comment ça se passe pour grimper. Vous essayez, et puis si vous vous débrouillez bien, bah, à l'arrière, je vais peut-être, je sais pas, vous mettre à 8-10 mètres de haut, mais à 3 mètres du tronc. Ne vous inquiétez pas, vous êtes toujours rassurés, hein. Parce que je regarde vos yeux. Ou alors vous avez plus de mal, donc je vais vous mettre plus près du tronc. Ou si vraiment vous avez du mal à grimper, ben j'aime bien, c'est toujours que vous soyez dans le même arbre, vous soyez tous ensemble. Donc je vais mettre des grosses sangles sur une charpentière et le hamac va se trouver à 1 mètre du sol ou à 1 mètre 50. Mais vous serez avec vos camarades dans le même arbre.
Donc on a 12 dans un arbre ou on a plusieurs arbres ?
Ah, ça dépend de l'arbre, ça dépend des arbres. Des fois, vous pouvez, selon les sujets, je peux mettre une dizaine de hamacs dedans. Des fois, j'en mettrai que 3 et ça dépend des arbres. En fait, on s'adapte. L'idée, c'est de pouvoir... moi, la conception de la grimpe, c'est aussi itinérante, c'est-à-dire vous faire découvrir vos espaces. Vous avez un parc ou je sais pas, que vous connaissez, mais que tout en bas. Et ben, l'idée, c'est de pouvoir que la commune accepte. Financièrement, évidemment, parce qu'il faut bien en vivre, de financer l'animation et de pouvoir vous faire découvrir votre parc, mais de là-haut. Vous donnez l'impression que vous êtes un petit faucon ou une petite chenille ou un petit pivert qui est là-haut et qui veut voir ce qui se passe, quoi. Vous trouvez pas ça magique ?
Quel est l'arbre que vous avez monté le plus haut ?
Alors, le plus haut, en fait, c'était plutôt quand j'étais en Île-de-France. Les arbres sont plus grands. Ils faisaient dans les 40 mètres. Mais si, dans le secteur, si je me rappelle, pas très loin d'ici, vers Luché-Pringé, j'avais un ami qui travaillait sur une propriété privée où là, il y avait un arbre, la base de l'arbre, c'est un platane, qui était plus gros que votre chaise. Votre tas, pardon. Donc, vous imaginez la base de l'arbre. Voilà, c'est même un peu plus. Et il montait, bien une trentaine de mètres. Et pour vous dire, ça fait quand même maintenant 30 ans, il y a peut-être 5 ans ça, ça m'est arrivé d'avoir un peu l'effet de vertige parce que juste à côté de cet arbre, j'avais la tour du château qui était ronde et qui faisait coucou. Donc moi, je montais avec, pareil, un tronc assez énorme et la tour à côté. Et de temps en temps, j'avais un peu l'impression de vertige puisque j'avais ces deux éléments et le vide qui me rattrapaient. Mais une fois que je suis arrivée dans les charpentières, j'ai fait un gros câlin et tout allait mieux.
Et nous, est-ce qu'on pourra aussi faire grimper dans les arbres ?
Ah ben j'aimerais bien, ouais.
Mais on va où pour...
Ça peut être des arbres... Alors soit vous me contactez et moi je pars chez moi vers la Charte-sur-Loire, j'emprunte des espaces où il y a des arbres. Et donc vous m'appelez 48 heures avant, parce que comme je suis itinérante, je monte et je démonte mon matériel. Vous m'appelez 48 heures avant et puis après vous pouvez venir grimper. Sinon, j'arrête pas d'essayer de tanner les centres de loisirs et les écoles et autres pour leur faire comprendre que ce serait bien de faire découvrir aussi les arbres de là-haut dans vos communes.
Et vous devez payer les terrains
Alors, j'ai la chance de pouvoir emprunter les espaces. En fait, des fois, on fait un accord. Je parle de l'état, parce que j'ai une formation qui me permet de voir l'état sanitaire des arbres. Donc, je leur parle de l'état sanitaire de leurs arbres et en échange, ils me prêtent les arbres. Et l'espace. Toujours dans le respect de chacun.
Steve demandait l'arbre le plus grand, mais la plus belle expérience de grimpe aux arbres, c'était quel arbre ?
Plus belle expérience. À la rigueur, c'est peut-être quand je suis justement dans ces arbres de château, en fait. J'en ai fait quelques-uns, parce qu'ils sont sympas. Ils ont toute une histoire, ils ont tout un passé. Ils ont vu des reines, des rois, parce qu'ils sont vieux. Et moi, j'aime bien ce côté-là. J'ai pas un truc plus qu'un autre. Moi, quand je vous emmène et qu'à la rigueur, vous faites plusieurs séances, et qu'au début, vous avez peur, vous avez une crainte, vous n'osez pas, et puis qu'au bout de 2-3 séances, vous êtes, à 10-12 mètres de l'arbre, même si ce n'est pas tout en haut de l'arbre, mais vous êtes là et vous criez mon prénom et vous avez une grande banane sur le visage et que vous êtes heureux, c'est ça mon grand plaisir, en fait. C'est que vous ayez de la joie, de découvrir, de vous dépasser. Ça, c'est super. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, mais bon, en fait, voilà ce que je pourrais dire.
Ok.
C'est ce fameux platane qui était plus large que la table, il a quel âge ?
En gros, si on mettait la circonférence ici et qu'on divise par 2,5, on aura à peu près son âge. Alors là, comme ça, je suis très mauvaise en calcul mental, je suis désolée. Mais il avait, disons que là, 2 mètres, 5 mètres. 5 mètres divisé par 2,5. Alors ça ferait, oui, il a dans les 200 ans, 250 ans. 200 ans, 250 ans. C'est-à-dire qu'il date de. On est au XXIe siècle.
Du 18e. Du 19e siècle.
Voilà, il est de 1700, 1800, quelque chose. Donc vous rencontrez tout ce qu'il a pu voir, ou sentir, ou respirer. C'est de la magie, hein.
Un arbre, ça peut vivre jusqu'à quel âge ?
Alors, vous avez des essences qui vont vivre peu, qui vont vivre 50 ans, comme les bouleaux. Et puis après, vous avez les séquoias, les chênes, qui peuvent vivre très, très vieux. Chez Marie-Antoinette, il y avait des arbres qui avaient plus de 300 ans aussi. Donc, voilà, ça paille. C'est un peu comme, on va dire, dans certaines contrées, on va avoir des humains qui vont pouvoir vivre plus longtemps que d'autres. Par un régime alimentaire, souvent on dit, chez les arbres, les végétaux, ce sont des êtres vivants aussi. Donc selon le territoire, et puis ça dépend parce que tu peux avoir un chêne sur son espace, son biotope, c'est l'endroit où il est bien, au niveau soleil et tout, il va vivre très très longtemps. Et puis il y a un autre qui va être dans un coin où il n'y a pas beaucoup à manger, il n'y a pas beaucoup de lumière, il va vivre moins longtemps. Alors il sera plus petit aussi, il poussera moins grand, mais il pourra survivre peut-être aussi longtemps. Et puis, il faut savoir aussi, parce qu'on nous fait peur avec l'écologie, que les arbres vont mourir, mais les arbres ont une énorme capacité à s'adapter, à se transformer, comme les animaux. C'est-à-dire que peut-être on va... je suis aussi un peu dans l'environnement, et donc on a des espèces qui vont sûrement disparaître, mais on en a sûrement qui vont apparaître. C'est ça, la vie sur Terre, c'est... Il y a des choses qui apparaissent, il y a des choses qui disparaissent, et c'est un éternel cycle. Donc il ne faut pas non plus avoir peur pour tout. Il faut la préserver, il faut faire attention à ce qu'on fait, mais il ne faut pas non plus se dire qu'on a une épée de Damoclès sur notre tête et que tout est fini.
Donc, il se situe où le plus grand arbre que vous avez monté ?
Alors, lui, il est pas le platane dont je te parlais, il est en Sud-Sarthe, vers Luché-Pringer, le Lude. Sinon, des plus grands arbres, des chênes à la rigueur qu'on a, c'est plutôt en Île-de-France. Et puis après, j'ai monté des chênes pareils, mais plus petits, c'était dans l'Aude, parce que justement. Comme je parlais, le climat étant différent et la roche différente, et ben ils poussent pas de la même manière.
Ok.
Et le plus petit arbre que vous avez monté, il avait quel âge et quelle taille ?
Petit, au moins avoir une vingtaine d'années quand même. Et je sais plus, le dernier, c'était un petit frêne, parce qu'il était mal placé, il fallait le démonter. Donc, j'ai coupé des petits morceaux pour éviter d'abîmer les petites plantes qui étaient en dessous. Parce qu'en fait, dans le métier, parce que je fais grimper dans les arbres, mais j'ai une autre casquette, donc les lagueurs. Et les lagueurs, normalement, on ne doit pas couper plus, pour dire que c'est un lagueur plus gros que son poignet. Et après, on devient des démonteurs ou des mini-bûcherons, entre guillemets. Hein. Parce qu'il y a vraiment le métier de bûcheron, ça, c'est bien autre chose, et je le laisse.
Vous nous invitez à mieux regarder les arbres aussi. Avant de monter, ça, c'est un appel à regarder l'arbre dans sa totalité.
Globalité, dans ce qu'il est, c'est regarder l'arbre, les végétaux comme des êtres vivants, comme vous à part entière. Parce que l'arbre, c'est par exemple aujourd'hui, moi je pense qu'il va y avoir une nouvelle catastrophe écologique si on met que des panneaux solaires et qu'on ne pense pas à remettre des arbres. Parce que la seule chose qui peut refroidir la température sur notre planète. C'est les arbres. Vous regardez un endroit où il y a une terrasse minérale, ou même juste une terrasse, pas d'arbre. Vous allez avoir une certaine température, par exemple 20 degrés. Quand vous allez aller, par contre, à côté où vous avez des arbres, vous allez perdre au moins 5 degrés. Donc, là, on a 20, là, on a 15. Donc, il faut vraiment regarder les arbres, s'occuper des arbres et arrêter aussi de vouloir les couper absolument, comme des porte-manteaux. Parce que dans le temps, on les coupait, oui, un peu en porte-manteaux. Mais il y avait une raison. C'est parce qu'on voulait fabriquer du petit bois pour allumer la cheminée. Aujourd'hui, on n'a pas toujours besoin de ça. Donc, on peut aussi laisser les arbres pousser, adapter aussi les arbres par rapport à l'endroit où on vit pour que la pousse ne vous oblige pas à nous faire venir, nous, les élagueurs. Il faut vivre ensemble.
Est-ce que vous avez déjà vu des arbres spéciaux ou différents des autres?
Vu que je suis restée surtout en Europe, j'en ai pas vu. Ah, si. Ce que je peux dire à la rigueur, oui, c'est d'avoir vu des charpentières qui vont partir, par exemple, de 3 mètres
d'eau. Est-ce que vous pouvez expliquer les charpentières? Parce que je pense qu'ils ne savent pas ce que c'est.
Donc, en fait, vous avez le tronc. Et dès qu'on a une grosse branche, en fait, la charpentière, c'est un peu comme une charpente dans une maison. C'est ce qui va tenir ta couverture, les ardoises. Donc, la charpentière, c'est la structure, c'est ce qui va... Voilà. Donc, tu as le tronc, les charpentières, et sur les charpentières, vous avez des branches, et ensuite les rameaux et les pousses de l'année. Donc, les charpentières, c'est les grosses branches que vous avez qui partent du tronc. D'accord? C'est la base. Alors, en même temps, si vous amusiez, vous pouviez en prendre une seule. Et bien, si vous la regardez bien, cette charpentière, avec ses ramifications, vous revoyez un arbre entier. D'accord? Donc, c'est la base. Donc, ces charpentières, j'avais vu des arbres qui étaient assez sympathiques. C'est, ils se partent de 3 mètres, ils redescendent, ils vous font une courbe, et puis elles remontent, mais elles ne touchent pas le sol, mais elles remontent comme si ça faisait un berceau. Et t'en as plein de comme ça, c'est assez agréable à voir. Autrement, c'est des arbres qui sont creux. Un arbre creux n'est pas spécialement dangereux s'il a une certaine sur sa circonférence il y a une certaine épaisseur de vivant, donc il peut être creux ou des fois on peut rentrer à l'intérieur. En Normandie, il y a un arbre, j'ai perdu son petit nom, mais il y a un escalier, il y a une partie où on peut rentrer un peu dedans. Donc c'est magique, c'est des vieux arbres, mais ces vieux arbres servent encore aussi pour la végétation et les animaux qui vivent dedans.
Et puis pour l'arbre qui redescend, on a un exemple, un très bel exemple, c'est le cèdre du Liban qui se trouve au musée des Beaux-Arts de Tours. Dans la cour du musée des Beaux-Arts, vous avez, Steve, tu pourrais voir un exemple d'arbre comme ça qui...
Avec ces grosses charpentières qui font des courbes et qui redescendent, oui, c'est vrai, j'avais oublié, ouais.
Alors là, on voit l'arbre d'en bas, on voit l'arbre dans son ensemble. Une fois qu'on est là-haut, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on voit? Comment on vit dans cet arbre?
Alors, ce qu'on vit, en fait, quand vous grimpez, déjà, vous voyez son écorce qui est différente entre la partie plus ancienne et la partie jeune. Un peu comme moi, j'ai un certain âge, je commence à avoir des rides. Puis vous avez une peau bien, bien lisse. Dans l'arbre, ça va être pareil. On va voir ça. On va voir les petites bêtes qui vivent dedans. On va voir les branches qui s'étalent. On va voir tout son environnement aussi. La magie de pouvoir regarder entre les feuilles pour arriver à entrepercevoir le clocher du village qui se trouve au bout. Ça peut être aussi la nuit de voir les étoiles quand on dort dans le hamac. C'est un autre monde, quoi. C'est une trois dimensions qu'on n'a pas quand on est au sol. Pas de la même manière, quoi. Quand on est en bas, on va dire qu'il nous écrase un peu, que quand on est dedans, on fait partie de lui, on est un passager, comme à la rigueur, une citelle ou un troglodyte pourrait grimper dessus, quoi.
Je pense pas qu'il sache.
Alors, ce sont des petits oiseaux qui sont pas très gros. La citelle est un petit oiseau tout bleu. La citelle torche bleu. Et le troglodyte, c'est un petit oiseau qui est dans les marrons, gris. Mais si vraiment, il est plus petit que notre poing. Bon, là, c'est un tout petit oiseau.
C'est un des plus petits oiseaux qu'on ait, avec une petite queue en l'air qui est facile à reconnaître. Et un chant très aigu.
Voilà, et il aime bien aussi souvent il descend des fois la tête en bas sur l'arbre, il est trop marrant.
Comme vous avez dit, on peut rentrer dans l'arbre, mais on creuse dans l'arbre pour y rentrer.
Alors en fait, non, c'est le champignon. C'est un champignon qui va venir manger la partie de l'arbre qui n'a plus de sève et qui va nous permettre de pouvoir entrer à l'intérieur. S'il y a une blessure qui a fait qu'on puisse accéder dans l'horizontalité de l'arbre. La verticalité, pardon.
Comment vous savez les âges des arbres?
Mais comme je te disais tout à l'heure, on s'est rendu compte avec de l'expérience que quand tu prenais à peu près 1,60 m de hauteur la circonférence de ton arbre, que tu divisais... Alors évidemment, c'est un arbre qui n'a pas été taillé, parce que sinon ça bouscule un peu tout, mais qui n'a jamais été... où l'intervention de l'homme n'a pas été faite. Tu mesures à 1,60 m sa circonférence, tu divises par 2,5, et ça donne à peu près l'âge de ton arbre.
Ok.
comme ça, sans couper. Ensuite, si on coupe une tranche, comment on fait pour lire l'âge d'un arbre avec une tranche d'arbre?
Ben, on le divise en deux.
Mauvaise réponse. Alors, il y a des choses qui se voient sur une tranche d'arbre. Qu'est-ce qu'on voit?
Bah, la vieillesse.
Oui, comment?
Bah, il est un petit peu plus...
Il y a quoi? Qu'est-ce que vous voyez?
Bah, de la mousse, par exemple.
Non, alors, pas à l'extérieur d'arbre, mais quand... une tranche, c'est quoi? Une tranche de saucisson, vous voyez ce que c'est?
Oui.
Bon, donc on voit les petits morceaux de gras, les petits morceaux de viande. Quand vous avez une tranche d'arbre...
Une souche d'arbre.
Ou une souche d'arbre, ou une tranche d'arbre.
Avec une souche d'arbre.
Vous voyez des petits traits, des petits ronds ou des petits zigzags, là. Hein, et puis, plus ça va, plus ils arrivent jusqu'à l'écorce. Ça vous rappelle quelque chose, ça?
Oui.
Ah, ben voilà. Donc, quand vous avez souvent une bande large, une bande fine, une bande large, une bande fine. Vous êtes d'accord?
Oui.
Donc, la bande large, c'est ce qui pousse au printemps, c'est-à-dire à partir de février jusqu'à peu près mai-juin, selon les végétaux. Et ensuite, vous avez la bande fine, qui est la seconde pousse, parce que l'on est sur un territoire où on a deux pousses dans l'année, qui se fait de fin août à mi-septembre. Et donc, la large et la fine forment une... Ah ben voilà, c'est pareil, une année. D'accord? Donc comme ça, vous pouvez connaître l'âge de l'arbre aussi. Mais là, il faut qu'il soit coupé.
Pardon. Vous pouvez même plus ou moins connaître les saisons.
J'ai deux petites questions. Comment vous pouvez savoir que l'arbre a atteint sa taille d'adulte?
Eh bien, c'est en regardant, en l'observant. Alors, on va observer, en fait, ce que je parlais tout à l'heure, quand j'ai fini ma charpentière, j'ai parlé des pousses de l'année. Donc, c'est ce qui pousse au printemps. Et si on a des grandes pousses, eh bien, ça va être un jeune, un adolescent. Si les pousses sont grandes, je veux dire, plus d'un mètre, quand elles vont plus que 50 cm, on va se dire qu'elles sont, c'est plutôt un adulte. Et quand elles sont toutes petites, on va plutôt dire que c'est un vieil arbre. Parce qu'il pousse moins, il grandit moins. Parce que comme tout arbre, toute espèce, en fait, ont plus ou moins des tailles inscrites. C'est-à-dire qu'un chêne, en général, ça fera dans les 30-40 mètres. Un noisetier, on fait que ça fait entre 6 et 12 mètres. Voilà, donc après, en regardant la longueur, on va savoir s'il est plutôt encore... il va encore grandir ou s'écarter, parce que ça, c'est grandir et s'élargir aussi. Et aussi, il va plutôt stagner et on n'a plus du tout besoin de faire venir un élagueur.
Et la deuxième question, un arbre, quand on le plante, il prend à peu près combien de temps à pousser
À se sentir bien et à s'installer dans l'espace? Et ben, en général, dans les 3-4 ans. Mais pour cela, il faut qu'au départ, on ait fait vraiment un bon trou, c'est-à-dire au moins 50 par 50 par 50. Parce qu'il faut penser que pour que l'arbre s'installe, il sente bien, il va grandir grâce à ses racines. Et au départ, les petites racines qui vont faire du chemin, ce n'est pas les grosses. Ce sont les toutes petites racines qui sont dessus, ce qu'on appelle les poils absorbants ou les radicelles. Ça vous rappelle peut-être quelque chose dans vos cours, qui sont grosses comme vos cheveux. Ce sont des mini pailles qui vont permettre à l'arbre d'absorber les minéraux et l'eau et en même temps de se faire un chemin dans le sous-sol. Et si, dès le départ, vous le mettez, je ne sais pas, vous achetez un petit pot là de 30 sur 30 et vous le mettez dans un trou de 30 sur 30, et ben, et que vous laissez les racines en plus, vous ne les défaites pas du chignon, vous les laissez comme ça tourner autour du pot, et ben, il ne va pas pouvoir se développer. Que si vous faites un trou beaucoup plus grand, la terre va être meuble et ces toutes petites racines vont pouvoir se déplacer et aller bien plus loin. Parce que vous savez jusqu'où vont les racines par rapport à un arbre?
Non.
Qu'est-ce qu'on dit généralement? Ça vous dit rien? Qu'est-ce qu'on dit de... Ben, généralement, par rapport au tronc, ben, s'il y a 8 mètres, et ben, vous savez qu'il fait 8 mètres de ces charpentières font 8 mètres, elles ne s'arrêtent pas aux 8 mètres, elles vont bien plus loin. D'accord? Elles font voir le double. Donc en fait, vous avez tout un chevelu et des grosses racines pour le tenir, évidemment, parce qu'il n'y a pas que des petites. Les grosses aussi servent pour... En fait, les grosses racines servent de pieds, et sur ces pieds, en fait, nous avons des petites racines qui vont lui permettre de boire et de manger, et d'aller plus loin.
Voilà, on voit le tronc, on voit les branches, mais un arbre est un tout, et avec ses racines et avec le mycélium qui l'accompagne. Steve d'abord et Kenzo ensuite.
Pourquoi il y a des arbres des fois où on voit les racines qui dépassent?
Ce qu'on appelle certains arbres ont des racines traçantes, c'est-à-dire qu'en fait au lieu d'aller faire un petit pivot comme une carotte, c'est-à-dire s'enfoncer en profondeur, ils vont s'étaler. Mais généralement ils ont des petites racines qui sont des petits pivots aussi pour se tenir quand même. Et alors, et souvent, on dit, oh, c'est l'arbre qui lève ma terrasse. Et en fait, non, c'est pas l'arbre qui lève la terrasse, c'est pas les racines de l'arbre qui lèvent la terrasse, c'est que la terrasse en elle-même, elle est pas assez, bien ancrée dans le sol, bien consistante, bien lourde, pour pas se faire soulever par les racines.
Si on arrache une racine, nous, ça fait quoi à l'arbre ?
Ah bah, tu le blesses, c'est sûr. Après, il y en a d'autres. Donc souvent, alors après, ça dépend si tu arraches une petite racine, comme mon petit pouce, mon petit doigt, ou si tu arraches une racine qui est déjà grosse comme mon bras. Déjà, ça, il va moins supporter. Mais il va pouvoir compenser avec tout ce qu'il y a, tout le reste de ses racines qui sont dans le sol. C'est pareil quand vous parlez là juste des racines qu'on ne voit pas, mais il y a aussi juste au niveau du tronc, quand vous passez des engins pour couper l'herbe, eh ben, faut faire attention avec les débroussailleuses, parce que les fils de la débroussailleuse ou les disques viennent couper l'écorce et donc mettre à nu la protection de l'arbre. Et des fois, peuvent arriver à couper même jusqu'à les vaisseaux et empêcher que la sève passe, même si on sait que la sève passe sur les trois dernières cernes qu'on a vues tout à l'heure.
Quand vous avez dit qu'il y a un arbre qui fait le plus grand que cette table, bah je me suis déjà imaginé une photo de cet arbre avec un gros tronc, des petites branches et pas beaucoup de feuilles. Je me suis dit...
Et tu vois, cet arbre-là, il fait 30 mètres de haut. Donc 30 mètres de haut, tu peux considérer que par étage, on compte à peu près 3 mètres par étage. On va dire qu'il y a 10 étages.
Je vous remercie, on arrive au terme de cette émission. Merci Cathy Trottier de nous avoir apporté tous ces éléments autour de l'arbre. Pour aller plus loin, pour les jeunes dans cette recherche, je vous invite à aller visiter Carnuta, la maison de la forêt, à Jupille, où vous retrouverez un petit peu tout ce que Cathy a dit sur l'âge des arbres, comment un arbre est constitué et comment il vit en interaction avec les autres arbres et avec les autres éléments. Merci à tous de nous avoir suivis sur Radio Prévert et vous pouvez nous retrouver en podcast sur radioprévert.fr.
Au revoir.
Au revoir.
Au revoir.
Au revoir. Au revoir.